pouvez nous rappeler rapidement les différentes étapes de votre maladie?
De Blanzy. J'ai été blessé le 24 février 64 en faisant un effort. Et depuis, j'ai eu 3 arrêts de travail jusqu'en 66, entre 6 septembre 66, que je suis venu en consultation ici à Lyon, à Édouard Herriot. Et
on m'a dit de porter un livre.
Jusqu'ici, il m'a paru artificiel, votre patient. Et maintenant, l'angoisse émerge.
L'ombostat plâtré, pendant 2 mois.
Mais le l'ombostat plâtré n'a rien fait du tout. Et le mois de février 67, le professeur qui me soignait a confirmé qu'il fallait une intervention chirurgicale.
Et cette intervention n'a pas apporté l'amélioration souhaitée.
Pas beaucoup. Parce que 9 mois après, j'étais obligé d'être réopéré de nouveau.
En fait, à travers l'échec de l'escalade des traitements médicamenteux puis chirurgicaux, c'est bien l'échec du pouvoir médical et de l'institution qui transparaît.
Je vous suis entièrement, parce que je crois qu'il nous énumère toute notre impuissance médicale.
Vous n'avez pu reprendre votre travail depuis cette époque ?
Jamais.
Et votre mode de vie depuis l'heure ?
Depuis 66, je n'ai plus jamais retravaillé. Parce que avant, j'étais blessé en 64, mais j'ai été 80 jours à l'aide la première fois. Ils m'avaient changé de travail, un travail plus léger, à la recherche du grisou. Et même ça, je ne pouvais pas y faire. Parce qu'il fallait passer dans des endroits bas, et il fallait se marcher à 4 pattes. Et moi, je ne pouvais pas.
Alors, j'ai repris une crise.
Il a refait une crise, comme s'il ne pouvait pas supporter d'être diminué dans son travail et marcher à 4 pattes. Sa devise, on dirait, c'est debout ou couché.
Et vous mettez l'accent sur l'impossibilité à supporter le handicap, surtout chez des sujets qui ont surinvesti habituellement leur appareil locomoteur, soit pour des raisons de travail, de gagne-pain, soit pour dans le cadre de la vie émotionnelle ou des loisirs. Et je pense qu'en fait, ils ont beaucoup de difficultés, en effet, à vivre avec un handicap lombaire et à supporter cette sensation de handicap.
De lombalgie. Et ils m'ont renvoyé, mon docteur traitant m'a renvoyé en neurologie dans le service. Alors là, ils ont diagnostiqué encore que mon nerf sciatique était pris dans la racine S1. Alors ils m'ont réopéré pour enlever la racine de S1. Et depuis, j'ai quand même tout le temps eu mal. Par à coup, ça me déclenche des crises. Alors après, en 71, j'ai refait une grosse crise. Je suis venu ici, à l'hôpital des Charpennes. Que vous-même, vous avez tout tenté, il n'y avait rien à faire, je ne remarchais plus, et que vous avez décidé de m'envoyer vers le docteur Jalal.
Sur le plan de votre activité, depuis cette période où vous ne pouvez plus travailler, qu'est-ce que vous faites dans la journée?
Quand j'en ai le courage, et puis que j'ai du goût, je fais un peu de vannerie à la maison, et des tapis en soie.
Vous alliez à la pêche, vous disiez,
tout le temps? Oui, l'été, je vais quelquefois à la pêche. Mais depuis l'année dernière, j'ai déjà pas pu y aller seul. Et avant, j'avais une vie tout à fait normale. Je travaillais
entre mes portes.
On a l'impression fréquente que dès qu'il n'y a plus d'activité, et même d'hyperactivité, c'est la chute vers la dépression.
Ils ne peuvent pas vivre sans rien faire. Et pourtant, la vie qu'il décrit paraît fort appréhendable. Mais il ne la supporte pas.
Oui.
Et depuis 67, j'ai plus une vie normale du tout. question de dépression, question de tout.
Ça a modifié complètement l'atmosphère chez vous.
Oui, parce qu'un rien, ça m'énerve.
Tu portais mal le bruit en particulier,
mal le bruit, surtout,
mal les autres.
Surtout, j'habite dans un HLM. J'habite dans un HLM, alors je ne peux pas supporter les enfants des autres.
Les enfants des autres,
surtout. Oui, oui, oui. Tandis que moi, j'ai trois petits-fils, je les supporte. Mais le bruit des autres, je ne peux pas.
Et voilà, le secret se dévoile. Jusqu'ici, c'était le trouble somatique en premier. Puis il décrit une vie pas très désagréable, mais qui ne supporte pas. Elle la périorise. Et maintenant apparaissent les troubles psychologiques.
Monsieur, vous disiez tout à l'heure, vie relativement agréable, mais en marginalité par rapport à toute activité d'homme, par rapport à tout sentiment de responsabilité ou d'utilité.
Voilà. Justement, c'est en comparaison avec les autres qui ne supportent pas cette vie.
Il ne dit pas d'ailleurs, mais il est méprisé par sa femme, un peu ridiculisé par ses enfants, très certainement rejeté par ses amis que quelquefois il a cherché à rencontrer à la sortie de l'usine et qui eux bien sûr ont travaillé. Lui vient d'aller à la pêche où il a fait de la vannerie et il n'est pas dans la position d'un homme égal à un ouvrier, à quelqu'un qui vient de faire sa journée de travail, qui a sa vie de responsable sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan familial.
Il y a le consensus social, bien entendu, dont il n'est pas responsable. Il y a aussi sa manière de ne pas pouvoir supporter l'infériorité.
Oui. Ça pose d'ailleurs, à la limite, le problème d'une revendication contre une oppression préalable pendant toute sa période d'activité, oppression par la société, oppression même ancestrale, puisque c'est un fils de mineur qui avait été transplanté, fils de Polonais, et en définitive, consciemment ou non, peut-être prend-il sa revanche.
On comprend mieux maintenant.
Des amis? Oui, j'avais des amis, tout, et j'ai tout laissé tomber à cause de la maladie. Parce que je me sens inférieur à un autre homme.
Vous avez l'impression que les anciens copains de travail...
Les anciens copains de travail, eux, ils continuent et que je ne suis plus du tout au niveau d'un homme.
Est-ce que vous avez cherché à les rejoindre à la sortie du travail ou les rencontrer dans...
Les premiers temps, mais maintenant, ça m'énerve même de les voir partir, travailler et de les voir revenir. Mais par contre, depuis que je vais avancer, alors, je me suis fait trois copains très intimes, des invalides comme moi, et on s'accorde très bien.
Alors, ma foi... Avec votre femme...
Avec ma femme, j'ai moins de relations qu'avant. Et ça vient de moins en moins.
Ça marche moins bien. Vous étiez bien avec elle avant,
oui, avant,
et maintenant, c'est difficile.
Avant cette histoire, j'étais très bien. J'étais un homme normal.
Vous dormez facilement ou vous êtes obligé de prendre des médicaments pour dormir?
Je suis obligé de prendre des médicaments pour dormir.
Sinon, vous n'arrivez pas à dormir?
Je prends des nuits blanches complètement.
Et vous souffrez la nuit?
Oui, je souffre. Quand je ne dors pas, j'ai mal. Dans n'importe quelle position. En convalescence avant, tout va bien. Je ne ressens aucune douleur, question de rhumatisme. Et tandis qu'à Monceau, eh bien ça y est. J'arrive à Monceau, je le prends des douleurs. Peut-être que ça vient du climat, j'en sais rien.
Et vous pouvez vous promener avant
très aimant,
sans difficulté. Avance,
très aimant. Et je bricole encore plus avance que chez nous, parce qu'il y a des ateliers exprès pour la rééducation. C'est là que j'ai appris à tisser, à faire de la vannerie, les tapis.
Oui.
Et une journée avance, ça vaut 8 jours à Monceau.
Vous êtes plus entouré également.
Ah bah oui, on n'est que des malades ensemble. Dans la maison, quand on est complet les jours de Noël, on est 105 malades.
Est-ce qu'on peut dire d'une façon générale que vous souffrez tous les jours actuellement, sauf lorsque vous êtes en convalescence précisément?
Je souffre plus quand je suis chez nous que en convalescence.
Vous êtes obligé de prendre tous les jours des médicaments antalgiques?
Pas tous les jours, mais presque. J'avais arrêté il y a 15 jours, J'étais obligé de reprendre, de recommencer hier soir.
Et ces douleurs que vous ressentez, vous les ressentez au moindre effort ou sous
au moindre effort.
Contrariété.
Au moindre effort ou aussi avec énervement. Quand je m'énerve, eh ben, je peux m'attendre le lendemain à avoir mal.
Vous disiez que vous vous sentiez en fait finalement pas bien.
Non, je suis mal de...
Quand je suis à mon pot, je suis mal dedans ma peau.
Je suis mal dedans ma peau. C'est-à-dire en fait, derrière j'ai mal, en fait je suis mal.
Je crois qu'il a autant mal à son intériorité qu'à son dos.
Tout à fait d'accord.
Je me sens délaissé, je me sens seul.
Vous parlez de votre femme, votre entourage familial.
Ben oui, mais je sais pas, il me manque quelque chose. Quoi, j'en sais rien. Peut-être que je me mets ça dans la tête, j'en sais rien. Mais on dirait qu'il me manque quelque chose.
À votre avis, c'est un phénomène climatique surtout, ou bien c'est un phénomène d'environnement psychologique?
Peut-être d'environnement et de climat aussi. Parce que là-bas, je vous dis, quand je vais sur la côte passer l'hiver, je suis tranquille. Et cet hiver, j'en ai pas pris un. Dans les 3 mois de présence avant, j'ai pas pris un comprimé contre les douleurs.
Il me manque quelque chose, dit-il, ce qui prouve qu'il n'est pas loin de la prise de conscience. Et on peut se demander, après tant d'années, est-ce qu'il vaut mieux favoriser la fuite, le laisser vivre avec ses invalides, avance, loin de Monceau, ou au contraire, instaurer une thérapeutique qui lui permette de sortir son agressivité.
Certainement, mais rappelez-vous que nous avons vu ce malade en consultation pour la première fois après l'escalade thérapeutique précitée, et avec déjà un statut d'invalide, dont on sait qu'il est souvent plus lucratif, d'ailleurs, que la reprise d'un travail peu spécialisé. Et je pense que c'est d'ailleurs là un des problèmes.
Je le crois comme vous, mais je pense aussi qu'il y a de l'espoir si on ne tient pas trop compte des institutions.
Il a d'ailleurs exprimé le désir, certes, peut-être sous la forme de velléité, puisqu'il n'a pas réussi à y parvenir, de retravailler dans l'optique d'une reprise de sa condition d'homme.
Espérons. Un autre cas.
Mon rhumatisme a commencé en 1959 par un doigt enflé. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai cru à une foulure et ayant vu le docteur, il m'a dit « mais c'est pas du tout une foulure, c'est du rhumatisme et ça sera probablement une polyarthrite évolutive ». Alors, je ne sachant pas trop, enfin, en fait, ce que ça pouvait, où ça pouvait me mener, cette histoire-là, je me suis fait soigner. Donc, j'ai eu des périodes de calme. J'ai eu des périodes où j'ai souffert énormément, où je ne pouvais absolument pas bouger ni les bras, ni les épaules, les bras, les mains. Ma main droite s'est déformée de plus en plus. Elle s'est stoppée pendant un certain temps avec les remèdes. Et puis, peut-être également un petit stage que je faisais dans le midi de temps en temps. Je ne ressentais plus rien à ce moment-là. Dès que je revenais à Lyon, ça recommençait de plus belle. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans où j'ai pu quand même continuer à travailler. Et puis, un beau jour, j'ai pris mal partout. Non seulement dans les mains, mais alors mal partout. Dans les épaules, dans les jambes, dans les pieds, ça me bloquait complètement et j'étais absolument dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Alors, je suis restée donc couchée pendant au moins 3 mois avec des difficultés énormes pour m'habiller, pour me lever, même pour m'asseoir, pour me lever ou pour me coucher. C'était infernal. J'ai donc été obligée de laisser mon emploi. Que j'aimais beaucoup, du reste, ça a été un gros handicap dans ma vie, c'est que j'ai perdu cette situation que j'aimais beaucoup. Et par la suite, évidemment, ça m'a créé de gros ennuis et de gros soucis. J'avais une fille encore très jeune et il fallait quand même que je l'élève.
Cette femme est donc veuve.
Elle a perdu en effet son mari quelques mois avant le début de sa polyarthrite rhumatoïde.
On peut se demander, comme pour beaucoup d'autres maladies graves, les rapports entre le deuil et le déclenchement de ces maladies.
Bien sûr.
Je vous donne une situation.
Alors, ma foi, on m'a aidé un peu. J'avais un fils qui n'était pas marié encore à l'époque, qui m'a bien aidée. Et là, j'ai continué évidemment à me soigner. Mais j'ai pu, malgré tout, au bout d'un certain temps, reprendre des activités. Enfin, ça, j'ai fait tout ce que j'ai pu de ce côté-là pour ne pas vraiment rester handicapée. J'avais l'impression que j'allais rester handicapée pour le restant de mes jours. Et ça, il fallait absolument que je m'en sorte. Ça, c'était nécessaire. Il me semblait que c'était vital d'abord. Alors, j'ai travaillé, j'ai fait de la couture, j'ai fait de la confection, enfin, vous voyez, à la machine, j'ai tricoté, j'ai cousu, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait mon ménage, évidemment. Enfin, j'ai tenu à rester, justement, à rester en activité, faire le plus de choses possible avec mes mains. Parce que de là, c'était mes mains, justement, qui me faisaient le plus de soucis. Parce que j'avais l'impression que j'allais perdre toute possibilité de faire quoi que ce soit, surtout avec ma main droite. Je me suis bien débrouillée, j'ai essayé de faire le plus de choses possibles avec ma main gauche, qui restait justement moins, qui se déformait moins que l'autre. Et puis, de là, ma foi, j'ai persisté et ça s'est maintenu. Disons qu'elle s'est déformée quand même encore, elle s'est déformée. Elle est plus déformée que, par exemple, il y a 2 ans. Mais enfin, j'ai l'impression maintenant qu'elle reste comme ça, qu'elle n'ira peut-être pas plus loin. Enfin, du moins, je l'espère. J'ai perdu, en somme, une situation qui m'apportait beaucoup. On travaille dans un bureau, on est en groupe, on a des amis, on voit tous les jours des gens qu'on aime bien, puis des gens nouveaux finalement. Un travail qui vous plaît, et ben c'est tout de même ennuyeux de penser qu'on est obligé de le laisser à cause de ça. J'aurais bien voulu le reprendre, mais je n'ai jamais pu le reprendre. Parce que d'abord, la sécurité sociale m'a presque obligée m'a obligée en somme à me mettre à l'invalidité. Moi, ils m'ont dit, mais enfin, avec ce que vous avez, c'est pas possible. Vous avez des gens qui n'ont absolument rien et qui veulent être à l'invalidité. Et vous avez une invalidité là, permanente. Il faut absolument que... Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, je me suis mis à l'invalidité. Ça ne m'a pas empêché de travailler malgré ça. J'ai continué à travailler un peu en faisant des choses chez moi. Vous voyez, j'ai fait de la couture. Au point de vue familial, je n'ai pas eu un très, très gros handicap de ce côté-là. D'abord, on m'a aidée de façon permanente quand j'étais très fatiguée. J'ai eu un entourage très compréhensif qui m'ont beaucoup aidée. Ça m'a certainement beaucoup aidée à remonter un petit peu la pente, parce qu'il fut un temps, justement, où j'avais quand même une certaine dépression au moment où j'ai justement perdu mon travail, étant donné que j'avais ma fille qui avait à l'époque 9 ou 10 ans, et toute seule pour l'élever depuis autant d'années, puisque mon mari est mort, elle avait 3 semaines. Donc il fallait que je prenne vraiment le dessus et puis faire le nécessaire justement pour m'en sortir le mieux possible. Disons pas le guérir, puisque c'est pas possible. C'est malheureux, mais enfin, on ne le guérit pas. Je pense que je vis avec mon rhumatisme depuis déjà des années, et puis je vivrai jusqu'à ma mort avec mon rhumatisme, en essayant de souffrir le moins possible et puis de faire le plus de choses possibles. Enfin, de sorte que maintenant, ma fille a 21 ans, elle a sa situation. Eh bien, je reste un petit peu plus tranquille. Disons que je ne travaille plus. C'est elle qui m'a pris à sa charge. Et je trouve même que c'est peut-être un tort, finalement, parce que j'ai l'impression, à certains moments, que si je continuais à avoir une activité en dehors de ma maison, je serais peut-être un petit peu, peut-être moins fatiguée. Vous savez, quelquefois, j'arrive... j'ai mal partout.
Je fais quelques cours pour rentrer moi.
Je suis fatiguée, je peux plus, je suis assise, je peux plus me lever.
Nous parlons en fait de la douleur, donc d'un symptôme essentiellement subjectif qui ne sera jamais véritablement mesurable. Et sans minimiser du tout les mérites de cette femme porteuse d'une polyarthrite rhumatoïde de relative importance, et tout de même, par rapport au malade précédent, elle a le mérite, me semble-t-il, d'avoir le statut de malade reconnu le statut d'une femme qui est porteuse d'une maladie reconnue par les médecins et la sécurité sociale.
Je ne sais pas si c'est un mérite. Ce que l'on sent chez cette petite dame, c'est une envie de vivre, d'être insérée socialement, de voir du monde, de lutter justement contre ce statut de malade et d'invalide.
Oui, paradoxalement, je pense qu'elle peut peut-être d'autant plus lutter contre ce statut d'invalide et de malade
qu'on lui a donné.
Je pense que justement cette activité que j'ai gardée longtemps, j'aurais peut-être dû la conserver encore quelques temps, et puis ça me permettrait
de moins penser à ce mal.
Je suis frappé par la mobilité de cette patiente. Elle change d'âge, elle change d'expression, elle change d'humeur d'un moment à l'autre.
Elle vit avec son rhumatisme, elle le dit elle-même.
Elle vit avec son rhumatisme, mais d'une manière très différente du cas précédent. Dans le cas précédent, ou bien il éclate, il produit une rupture, ou bien économiquement il se réfugie dans les symptômes. Ici, au contraire, la maladie est avérée, elle lutte contre l'ankylose, elle veut l'insertion sociale, c'est la sécurité sociale qui la déclare malade, et elle cherche encore à s'insérer, à lutter contre ce qui la menace. Je crois que c'est tout à fait à l'opposé du cas précédent.
Oui, très certainement, et nous allons avoir un autre cas contrasté avec celui du malade suivant.
Bah, disons que les douleurs ont commencé en 1969. J'ai fait la grippe asiatique. Et puis, ça s'est déclenché après la grippe asiatique. C'est-à-dire que je suis restée allongée 3 mois, je suis restée couchée 3 mois, et c'est tout de suite après que j'ai commencé à avoir mal à la colonne vertébrale. Alors, on a diagnostiqué une ostéoporose, on a diagnostiqué surtout ça, l'ostéoporose, la décalcification. Et puis, petit à petit, ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé du point que je ne peux plus porter aucun poids lourd. À partir d'un kilo, je ne peux plus porter rien parce que j'ai l'impression que mes bras se disloquent, que ma colonne vertébrale se disloque, que je vais tomber. Automatiquement, on dirait que je vais tomber et que je ne vais pas pouvoir me relever. Voilà ça, l'impression que ça me fait.
Et ceci malgré des traitements médicamenteux.
Ah oui, non, il n'y a même plus rien me fait. Plus rien, aucun médicament me fait.
D'emblée, on voit une discordance entre la physiopathologie et ses sensations. Son corps se disloque, se morcelle, et sa mimique est tout à fait expressive.
Elle est certainement très délirante et en fait très fragile.
Quand je suis en pleine crise, je me fais moi-même mes piqûres, je fais des piqûres, il n'y a rien à faire, ça me calme pas. Ça me donne des douleurs tout le long de la colonne vertébrale, ça me donne dans les vertèbres cervicales, dans la tête, les yeux, la face. Ça me prend tout ce qui est osseux.
En somme, un véritable délire du corps.
Les bras, tout. Et j'ai l'impression, quand je me lève le matin, alors là, j'ai l'impression que vraiment, je suis paralysée du côté gauche.
Et pourtant, il y a d'autres périodes où vous pouvez faire
des affaires. Il y a des périodes où je j'ai pas de douleur, rien, ou absolument rien, comme si je n'avais rien à la colonne vertébrale.
Et ça, vous faites remonter ces douleurs à 1969.
Ah oh oui.
Alors, vous aviez été opéré une première fois avant la guerre.
En 1940, oui, en 1940. Multiples. Mais non, ce n'était pas du tout les mêmes douleurs. En 1940, j'ai fait une paralysie d'un seul coup. Je suis tombée carrément par terre et je n'ai pas pu me relever.
En 1940, mais c'est le début de la guerre, y avait-il chez elle un problème particulier qui l'a sensibilisée plus qu'une autre à la guerre?
Bien sûr, en réalité, cette femme s'est mariée très jeune, à 15 ans et demi, avec un juif qui a été déporté comme elle. Son mari est mort en déportation. Elle a perdu un de ses deux fils en déportation et le deuxième, malheureusement, d'un accident de motocyclette un an plus tard.
Et on m'a conduit à l'hôpital et on m'a fait des examens. Et à la suite de ces examens, qu'on m'a opéré.
Vous êtes tombé à la suite de quoi? À la suite d'un effort?
Non, en montant les escaliers, d'un seul coup, ça m'a pris.
Et dans les suites de la guerre, malgré vos ennuis multiples?
Eh bien, oui, disons que j'ai pu supporter la déportation, ça a pu aller. Sur ce point-là, ça a pu aller. Après, j'ai fait peut-être de la décalcification, mais on m'a soigné. On m'a soigné pendant un an, on m'a fait faire constamment des piqûres, et ça a été bien. Et puis, ça s'est ressenti en 1969. Là, alors, à partir de 69, ça ne va pas du tout.
Et depuis quand est-ce que vous avez noté une amélioration? Depuis quand? 72, 73, par là?
Oh, ben non, parce qu'en 72, j'étais hospitalisée. J'étais hospitalisée en 72.
Dans le service?
Et dans le service. Et puis, j'étais hospitalisée en 73, à l'hôpital de Vienne. Toujours pour le même système.
Et l'amélioration que vous notez actuellement remonte à quand? Parce qu'actuellement, vous avez quand même une vie qui peut être active, tout au moins dans certaines périodes.
Oui, ça fait l'espace de, disons, 5-6 mois.
En réalité, je voudrais insister sur un point. Cette femme qui est influencée indiscutablement par la présence du caméraman modifie un peu son récit, un certain nombre d'étapes apparaissent assez floues. Et depuis plusieurs années, et principalement depuis la période depuis 1974 qui lui a permis de divorcer d'un deuxième mariage catastrophique, elle s'était mariée par correspondance, elle a réussi à se distancier de sa douleur, de son ostéoporose, de sa cyphose. Elle en parlait de moins en moins, elle prenait peu de médicaments, ou presque pas de médicaments, et finalement, il me semble qu'il y a comme un phénomène un peu régressif en présence de la caméra, qui fait qu'elle adhère à nouveau à une expression de type somatique.
Régressif peut-être, parce qu'elle ne veut pas revivre dans son discours un passé extrêmement douloureux.
Très certainement.
Non, que je n'ai pas du tout mal, ma cyphose ne me fait pas mal du tout. Mais par contre, j'ai des douleurs qui me prennent à la vertèbre cervicale et qui touchent la vertèbre lombaire. Et alors, ça me longe l'épaule, là, ça me longe là l'épaule et ça me longe le bras automatiquement. Et si je suis couchée sur le côté gauche, je n'ai pas mal. Si je me tourne du côté droit, alors là, je sens toute la douleur sur le bras, tout le long du bras. Et puis alors, ça me fait une chaleur intense à l'intérieur.
Ça me monte dans
le cerveau, ça me donne des maux de tête très violents, au point que je peux prendre même des médicaments. Alors là, je prends des médicaments, je prends n'importe quoi pour que ça me passe, et là, ça ne me passe pas.
Là, il n'y a plus rien à faire.
Oui, il ne faut pas s'étonner, me semble-t-il, de l'inefficacité des médicaments antalgiques vis-à-vis d'une symptomatologie de ce type, qui en fait traduit un embrasement pulsionnel corporel très singulier.
Je crois comme vous qu'il y a un embrasement pulsionnel extraordinaire et qu'elle en parle trop fort bien en invoquant la droite et la gauche, la chaleur qui monte, etc., etc. C'est peut-être cet embrasement pulsionnel qui a permis de tenir le coup à travers la mort, les camps de concentration, la rupture avec le milieu, etc.
C'est bien ça, n'est-ce pas?
Non,
pas une modification de cette douleur sous médicament.
Non, pas du tout.
Même une espèce de modification de la sensation.
Pas du même tout. Avec les piqûres, j'ai toujours ce mal de tête, la tenace, ce mal-là qui me brûle, on dirait que j'ai du feu. Même si je reste au soleil, ça me le fait. Si je reste au soleil, je ne peux pas, je suis obligée de m'éloigner du soleil parce que j'ai une brûlure qui me prend dans la vertèbre.
Et lorsque vous faites des efforts, est-ce que ces douleurs s'accentuent ou au contraire...
Ah oui, automatiquement, oui, ça agit sur la colonne vertébrale, ça agit sur ma cyphose.
Et quand vous faites de la mobilette, par exemple?
Ah ben alors là, il ne faut pas en parler.
Pourtant, il y a eu une période où vous étiez enthousiasmée de votre mobilette.
Oui, oui, les débuts, si quand même, les débuts, je commençais à avoir mal à la tête, je ne savais pas à quoi y attribuer. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que j'ai eu des secousses en mobilette, alors là, j'ai commencé à avoir mal, là, en dessous de la cyphose.
Ça m'a monté jusqu'au bas.
La mobilette, symbole de sa liberté, lui donne mal à la tête.
Et j'ai des maux de tête quand je m'arrête de faire de la mobilette. Si je ne fais pas de mobilette, je n'ai pas de maux de tête. Et si je fais de la mobilette, que j'ai les secousses de la mobilette, puisque ma roue arrière n'a pas de béquille en suspension, alors je ressens tous les chocs de la route. Automatiquement, si je vais sur un trou ou si je vais sur un machin... sur une bouche d'aération, par exemple, là, je ressens des secousses ça me porte dans la tête automatiquement. Ça me monte la colonne vertébrale et ça me donne des maux de tête violents. Alors disons que je me suis mariée très jeune. Disons que je me suis mariée à 15 ans et demi presque. D'abord parce que je n'avais plus ni mes parents, alors je vivais avec une grand-mère. Puis quand ma grand-mère est décédée, j'ai eu des désespoirs, des chagrins, j'ai eu un manque d'affection et je me suis éprise d'un jeune homme et ce jeune homme est devenu mon mari, je me suis mariée. J'ai eu des enfants, tout a été bien, tout s'est bien passé. Et puis, disons que quand je me suis mariée, j'allais toujours en classe, j'allais au lycée. Et puis j'ai passé mon bac, j'avais pas 17 ans, et mon mari, pour me féliciter, pour me remercier de ses études précoces, m'a fait faire le voyage de Lyon en Norvège. Et ça fait que ma pensée a toujours été de retourner dans ce pays que j'ai aimé beaucoup, qui est d'abord très beau, dont les habitants sont très cordiales, très sympathisants, très, très aimables surtout. Alors j'aimerais y retourner, et j'avais pensé, évidemment, j'avais pas pensé à ma colonne vertébrale, mais je pensais faire le voyage une partie en mobylette, le reste en chemin de fer.
N'êtes-vous pas allé en Norvège récemment?
Oui, c'est un fait, oui. Mais je pense que derrière ce voyage en Norvège, y a chez elle un besoin de vivre par un projet permanent que malheureusement elle ne réalise pas.
Il n'y a-t-il pas aussi tout un système tout à fait fantasmatique transposé sur vous et qui lui permet de vivre sans rien réaliser?
Voulez-vous parler d'un transfert
comme on dit dans notre langage?
Malheureusement, j'ai fait l'expérience qu'avec la mobylette, il n'était pas possible de faire la moitié du voyage dû à ce mal de syphose que j'ai. Mais ça n'empêche pas que j'irai certainement, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, très certainement.
En pèlerinage,
en souvenir de ce passage heureux de ma vie, quoi.
Et d'autre part, sur le plan professionnel, vous avez travaillé jusqu'à quelle période?
Ben, j'ai pratiquement travaillé de 1900, du jour où j'ai eu mon diplôme d'État.
D'infirmière,
j'ai eu en 1948. Et donc, j'ai fait ces études après être revenue de déportation. Avant, non, j'avais pas besoin de travailler, alors disons que j'avais pas besoin de faire des études. Alors, j'ai repris les études, j'ai fait ces études d'infirmière, je suis devenue infirmière, j'ai travaillé dans une clinique de contagieux. Et là, ça a été très bien, ni je souffrais de la colonne vertébrale, rien du tout, absolument pas. Et j'ai repris le service dans un hôpital lyonnais. Et là, j'ai commencé à avoir des malaises cardiaques. Je prenais des malaises assez violents, que je tombais évanouie. Et c'est là qu'on a commencé à voir qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond chez moi. Mais on ne m'a pas diagnostiqué de suite que je faisais de la dégasification.
C'est une période où vous aviez des douleurs?
Ben, j'avais pas de douleurs, mais je me sentais fatiguée tout de même.
Vous étiez mal?
Oui, je me sentais fatiguée. La colonne vertébrale était fatiguée.
Je me sentais lasse.
Remarquez l'habilité du niveau d'expression, tantôt psychologique, je me sentais là, et l'instant d'après, dans la même phrase, j'ai mal à la colonne vertébrale.
Malgré ça, vous avez pu continuer à travailler?
J'ai continué à travailler, je me suis arrêtée en 63. Là, on m'a interdit de continuer dans ma profession auprès des malades, parce que c'était trop pénible, mais j'ai continué à m'occuper quand même de malades.
C'est-à-dire à des personnes qui n'étaient pas hospitalisées.
C'est frappant combien il se porte mal l'institution et combien elle a besoin, elle, de s'occuper des malades qu'elle choisit elle-même.
Alors, j'ai travaillé, disons que j'ai commencé à garder ces personnes de 1964 à 1969, de là où je suis partie en faisant l'ostéoporose.
Et depuis, lorsque vous avez essayé de retravailler, vous avez souvent...
Oh non, je ne pourrais pas. Le plus que j'ai fait, c'est en 1972, j'ai essayé de travailler 15 jours, et un jour, j'ai pris le car, je suis arrivée à Vienne, et quand je suis arrivée à Vienne, j'étais incapable de descendre du car, même pas de me lever de mon siège. Il a fallu qu'on me donne la main, là j'avais l'impression que je tombais paralysée. On aurait dit que j'étais paralysée.
Vous avez fait aussi un essai de garde de malade, il y a quelque temps.
Oui, j'ai fait, oui. Mais je ne peux pas. Justement, j'ai essayé de garder un handicapé l'année passée. C'était formidable. Mais cet handicapé, pour moi, était trop malade parce qu'il fallait que je le soulève. Et justement, je ne peux pas soulever au-dessus de 2 kilos. C'est pas possible, je ne peux pas. Là, ma colonne vertébrale, j'ai l'impression qu'elle se disloque.
Vous avez dit formidable. C'était formidable pourquoi?
Sur le plan psychique, surtout.
Ça vous permettait d'être active,
d'être active? Oui, ça me permettait de voir quand même qu'il y avait plus malade que moi, disons. Voilà, et que je pouvais être utile à plus malade que moi. C'est surtout sur ce point-là que j'ai voulu garder cette personne.
Si je comprends bien, lorsque vous avez travaillé, vous avez pratiquement toujours travaillé dans un milieu hospitalier auprès
de
malades.
Oui, oui. De 1948 à 1963, j'ai travaillé dans un service
hospitalier. Voilà donc trois malades représentatifs des consultations de rhumatologie, tous porteurs de douleurs rebelles. S'ils ont choisi de venir consulter en milieu somatique, c'est pour qu'on réponde à ce niveau, tout au moins apparemment, en y englobant le vécu corporel de cette douleur, dans le cadre d'une relation thérapeutique, certes parfois lourde, mais nécessaire, et supposant une adaptation constante de la distance entre le médecin et le malade.
Oui, trois malades qui viennent avec une plainte et une demande. Soulagez-moi. Mais le premier fuit, se sentant inférieur, la deuxième se sent kilosée par sa maladie, et la troisième préfère vivre dans son fantasme que d'exister pour de bon. Comme quoi la demande et le désir ne sont pas toujours concordants, et combien le médecin, effectivement, doit chercher à varier ses distances. Mais qu'est-ce que c'est que de varier la distance ?